Chapitre 24. Kijongdong, Corée.
Qu'est-ce qu'on fiche dans ce village fantôme?
Babou regardait les alentours, circonspect. Il n'avait jamais rien vu de semblable, et pourtant, à l'âge de la téléportation, plus grand-chose sur cette terre ne l'étonnait. Il s'éloigna de Misha et d'Artem pour essayer de comprendre pourquoi, dans cet étrange village, les dizaines de maisons et d'immeubles étaient tous factices. Des façades sans fenêtres, des murs et des toits abritant des intérieurs vides, sans pièces, sans cuisine, sans douche. Un village inhabitable. Un décor de cinéma, mais d'une banalité telle qu'il offrait la certitude qu'aucun film n'y avait jamais été tourné.
« Ce village fantôme, c'est chez moi !» fit Misha en laissant échapper Darnkat. « Et c'est chez toi aussi maintenant, mon minou !»
À côté d'eux, le commandant Akinis s'était occupé à lire sa tabletta.
« Il s'est passé quoi ?» demanda Babou. « Ils n'ont pas eu le temps de le finir ?»
Misha guida Darnkat dans une grande bâtisse dont la façade impressionnante dissimulait une pièce, une seule, presque sans meubles. Juste un tapis, deux chaises et un placard. Le chat paraissait perdu dans la maison plus vide qu'une cathédrale.
« Je suis né ici, » expliqua la capitaine Kim, « à Kijongdong. À 2 kilomètres, là-bas, »
elle désigna par le trou dans le mur censé être une fenêtre, un point lointain dans la plaine,
« c'était la frontière entre les deux Corées, l'une des plus fermées au monde, il paraît. Elle avait disparu bien avant que je naisse. En Corée du Nord, on appelait Kijongdong le village de la paix, et en Corée du Sud, on l'avait baptisé le village de la propagande. » Parce qu'il était le seul qu'on pouvait voir de la frontière, et qu'il avait été construit pour qu'on croie que des gens vivaient ici, sans chercher à s'échapper. Des militaires passaient même chaque soir pour allumer les lumières.
Darnkat explorait les lieux. Il alla se frotter contre les jambes d'Artem, toujours occupé par sa lecture. Babou observa une nouvelle fois la plaine et les vestiges de l'ancienne zone démilitarisée entre les deux Corées. Un no man's land effrayant, encore hérissé de miradors, d'antennes, de batteries, de canons désactivés, et sans doute de mines enterrées.
Et tu vis vraiment dans ce foutu décor?
Non, j'y vis pas. J'y dors, c'est tout. Je me téléporte ici avec mon futon et je repars dès que je suis réveillé. J'ai le monde entier pour manger, me laver, m'amuser. Mais je dors ici, chez moi. Là où dormaient mes parents et où dormiront mes enfants. Et Darni chéri.
Babou grimaça sans retenue devant ce paysage d'apocalypse. Ultime témoignage d'un monde que désormais aucune frontière ne défigurait.
En tous les cas, on avait dit un crochet de 5 minutes, le temps de déposer ton minou et...
L'enfoiré ! Cria soudain Artem.
Sa voix résonna en écho dans la maison vide.
Ce salopard se fout de notre gueule !
Il colla sa tabletta sous le nez de Babou et Misha.
Ça vient d'être publié dans l'Independiente Planète. Un entretien avec un homme qui prétend fournir à tous ceux qui en ont besoin des TPC permettant d'échapper à Pangaea. Regardez qui a signé l'article. Lilio de Castro.
Ils vérifièrent. L'article avait été mis en ligne moins de 15 minutes auparavant.
Au moins, fit remarquer Babou, philosophe, on sait comment ce journaliste et cet instit nous ont échappé à Rio.
Artem repoussa du pied Darnkat, qui, faute de meubles à escalader, essayait de grimper sur lui. Misha se précipita pour lui montrer le petit panier de dentelle orné de rubans roses qu'elle avait acheté. Une virée de 3 minutes chrono sur la grande place de Bruges.
« Tu seras bien là, mon... »« Misha !»
La voix du commandant avait tonné. Elle remplit l'espace creux et se cogna au mur dans une solennité jupitérienne.
« Misha !» répéta Artem. « Babou, on va arrêter de faire joujou et on va faire un point d'étape. Rassurez-vous, ce sera rapide, on n'a rien. Rien !» À part le film d'un tueur blond qui n'existe pas. Appelons-le Cannes, si tu veux, Misha. On a évacué le Maracanã en direct devant 7 milliards de spectateurs sans même savoir si c'était pas un canular. Le président Nemrod s'est fait interviewer par un journaliste devenu l'ennemi numéro un, dont tout indique qu'il est mêlé de près aux attentats et à des trafics sordides remettant en cause les fondements de l'Organisation mondiale des déplacements, et donc, en conséquence, la liberté de déplacement des terriens. Sans oublier la préparation de la cérémonie du centenaire, à laquelle notre président semble particulièrement tenir, ainsi que la majorité des habitants de la Terre, si j'en crois l'Ecclésia. Alors Misha, on va laisser tranquille Darni chéri, son panier rose et sa babale. Babou, tu vas faire un effort pour nous dispenser de tes leçons de philosophie et ta nostalgie. On est la risée du monde. Alors comme disaient les flics au temps des sirènes et des gyrophares, on passe la seconde.
Si la capitaine Kim cessa immédiatement de s'intéresser à Darni, son panier et ses croquettes, Babou ne parut pas impressionné par le discours de son chef.
Doucement, Artem, doucement. Chacun fonce un peu trop vite, un peu partout, dans tous les coins de la terre. Alors mes méthodes anciennes, comme tu dis, elles ont aussi du bon. »
Le commandant s'était relevé. Ses mains trahissaient sa nervosité, mais il fit l'effort de laisser le lieutenant parler.
« Je prends un exemple, Artem. Ton ennemi numéro un, le journaliste. Je crois pas un instant qu'il soit mêlé aux attentats. D'accord, il se retrouve au mauvais moment, au mauvais endroit, près de Tetamanou, à Maracanã. Tu parlais de divination, mais c'est peut-être simplement un bon journaliste qui a toujours une longueur d'avance, y compris sur nous. Il a fait notre boulot en révélant ses trafics de TPC clandestins. C'est pas parce qu'il emmerde Pangaïa et le Congrès avec ses articles qu'il adhère aux thèses des terroristes. Le tueur, on le connaît, on l'a vu manipuler le livre d'Ossian, graver Pichipoy et assassiner 10 retraités. C'est lui, Khan. C'est lui qu'il faut chercher. »
Les doigts d'Artem avaient cessé de s'agiter. Une partie de sa nervosité était retombée. Le commandant avait écouté avec intérêt l'analyse de son adjoint. Pas Micha. Dès que le lieutenant Diop avait détourné l'attention du commandant, elle s'était concentrée sur sa tabletta, passionnée par ce qu'elle lisait.
« Micha !» gronda à nouveau Artem. « Ça te dérangerait de t'intéresser un peu à la conversation ?»
La jeune Coréenne releva ses grands yeux de poupée élargis au maquillage Puppy Eyes.
« Arty, je peux m'échapper 5 minutes ?»
Le commandant Akinis fusilla du regard son adjointe, sidérée par son impertinence.
« Y a pas de toilette ici !» ironisa Babou pour faire baisser la tension. « Faut qu'elle aille faire pipi à Pékin !»«
Rien à voir, gros bêta !» réagit Micha. « On vient juste de signaler une disparition inquiétante !»
Elle tourna sa tabletta vers les deux policiers. Elle était effectivement connectée au site du bureau d'investigation criminelle.
« Tu laisses Nocera ou le duc s'en occuper !» trancha Artem. « On a d'autres priorités !»
Micha supplia Artem du regard. « S'il te plaît, c'est une belle histoire. Il s'appelle Arvalan, il a 15 ans, il est vendeur de fleurs au Sri Lanka. »
Artem paraissait de plus en plus excédé par le romantisme de son adjointe. S'était-il trompé sur son compte ? La petite surdouée de l'informatique, surfeuse de génie sur le big data de Pangaïa, était-elle incapable de poursuivre une enquête sans faire preuve de sentimentalisme ?
Il baissa avec mépris les yeux vers Darncat, qui avait déjà adopté son panier en dentelle, presque le seul élément de décor dans cette bâtisse de 100 mètres carrés, haute comme un immeuble de 3 étages.
« Et ?» poursuivit Micha, qui ne semblait pas prêter attention à l'agacement de son chef, « chaque matin ?» Depuis des années, un homme vient acheter à Arvalan un bouquet d'œillets d'Inde pour fleurir la tombe de sa femme. Il n'est pas venu ce matin.
« Tu m'en... »
allait exploser le commandant Akinis avant que Micha, plus rapide, ne colle l'écran de sa tabletta sous son nez.
Arvalan avait l'adresse de son petit vieux. Inquiet, il s'est téléporté. Il l'a trouvé mort allongé sur la tombe de sa femme. Pas d'une crise cardiaque, pas de chagrin.
Elle hissa sa tabletta plus près encore de ses yeux.
« Il l'a trouvé mort égorgé. » Une entaille fine et propre en forme de smiley. La même entaille, exactement la même. J'ai fait tourner des logiciels de superposition d'images que celle qui a coûté la vie à notre retraité allemand du bungalow Hibiscus. D'après le logiciel, il y a 97,8% de chances que l'arme utilisée soit un santoku. Un travail de pro. Un travail qui ressemble à s'y méprendre à celui de Khan.
Micha battit des paupières en direction de son supérieur. Une œillade de défi sexy. Puis s'agenouilla vers Darny.
« Reste là. Maman revient très vite, mon chéri. »«
C'est où ?»«
Gulmarg, au Cachemire, dans l'Himalaya, au pied d'un des plus hauts téléphériques du monde. »